C'est la deuxième heure de ce 1200e Sweet Home Chicago et la carte blanche totale à un amateur éclairé, un guetteur du siècle, biographe de Jacques Morgantini, le découvreur du blues en France, hélas disparu, un sociologue éclairé, un vidéaste de renom qui a voué sa vie aux autres par son métier et sa passion de la musique. Je veux parler de Jacques Gasser, Lorrain installé en Béarn depuis plus de 30 ans. Avec lui, nous brosserons le portrait de quelques artistes d'hier et d'aujourd'hui qui continuent tous de compter à son cœur. Les classiques Big Bill Bronzy, Lightning Hopkins, Luther Snakeboy Johnson, mais aussi la belle, rare et regrettée Valérie Willington. Puis ses contemporains et voisins d'ici ou de l'autre côté des Pyrénées, l'immense Nick Owen Toussaint et le méconnu mais génial Tanky de la Peña. Avant de conclure tous ensemble en osmose avec Caso Kings, un beau 1200e. Je reçois un ami, que dis-je, un confrère, que dis-je, quelqu'un de très important, vous allez voir, parce que on peut pas être à la fois, vous allez dire, l'Alan Lomax du Béarn, ou un spéléo ethnomusicologue et un musicien et un amateur de blues, bien sûr. Mais si, on peut tout faire quand on s'appelle Jacques Gasser. Salut Jacques.
Bonjour Marc.
Comment vas-tu ?
Bonjour la radio. Bonjour à tous.
Bienvenue dans le poste, bienvenue à Radio 666. C'est pas exactement la première fois que tu t'exprimes ici, parce que la dernière fois, c'était il y a quelques années, pour nous présenter un double DVD, Mémoire de blues, consacré à l'œuvre de Jacques Morgantini. Un autre Jacques, les frères Jacques, donc Jacques Gasser, qui est là, en chair et en os dans le studio. Je te remercie d'avoir fait ces 817 kilomètres pour nous rejoindre ici à Hérouville-Saint-Clair.
Merci Marc. C'était 818.
818,
oui.
Eh bien écoute, bravo en tout cas voilà, d'avoir fait ce déplacement. Est-ce que tu peux, pour nos auditeurs, puis ceux qui n'avaient pas entendu forcément cette émission il y a 4-5 ans, te présenter et nous dire d'où tu viens ? Comment es-tu tombé dans la marmite il y a quelques années maintenant ?
Oui, je suis tombé dans la marmite du blues plus exactement à 18 ans, le jour où j'ai entendu Big Bill Bronzy.
Ah oui,
c'était une
il
chance.
Était déjà plus de ce monde à l'époque.
Non, j'avais écouté d'autres musiques, 10 Years After et Jimi Hendrix et d'autres, mais ce blues m'a vraiment révélé deux choses. La première, c'est que le blues me traversait les tripes, et la deuxième, ce titre que j'avais écouté m'a révélé qu'en fait, je voulais être éducateur spécialisé, et cette chanson me révélait un petit peu les difficultés, le racisme, les problèmes humains, sociaux, et c'est quelque chose qui est toujours resté chez moi, entre la musique et mon métier.
Oui, parce que on va dire effectivement que tu as été éducateur pendant de nombreuses années, et puis les inégalités, le racisme, toutes les tares de cette terre, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans tes goûts musicaux.
Oui, absolument.
Et le blues, c'est la musique pour toi, la musique qui véhicule ça de la meilleure manière.
C'est quelque chose qui révèle effectivement les soucis, les misères d'un monde. Pas seulement d'une ethnie noire, pas seulement des esclaves, mais en fait c'est un symbole, cette musique est le symbole peut-être des problèmes sociaux de notre monde et des misères et des souffrances de notre monde, voilà.
On va aussi indiquer, Jacques Gasser, que tu n'agis pas que dans le monde de l'éducation et dans le monde de la musique pour dire on va faire découvrir des artistes. Tu fais également de la vidéo, tu es vidéaste amateur et professionnel.
Je suis vidéaste, je veux dire plutôt semi-professionnel, je ne suis pas déclaré comme professionnel, mais l'expérience que j'ai acquise me permet de faire peut-être des vidéos de meilleure qualité qu'un amateur. Donc j'ai dans le milieu de l'éducation spéciale, j'étais pédagogue audiovisuel, je me suis fait l'école du tourné-monté dans des fêtes familiales, des mariages, etc. Donc c'est une excellente école. Et puis j'ai fait deux stages également de réalisation et de montage, il y a longtemps. Et puis, j'ai beaucoup travaillé, lu, et j'ai fait également la mémoire collective de mon village en vidéo.
Et oui, alors ton village, on va situer, on est à Saint-Faust, on est au sud de Pau, dans le Béarn, c'est ça ?
C'est
dans le département,
oui.
64.
Oui.
Et de chez toi, il paraît qu'on voit les Pyrénées ?
Oui, ah oui.
C'est pas une fake news, ça ?
Ah non, on voit les Pyrénées, c'est magnifique.
Et donc, tu t'intéresses au patrimoine local. Saint-Faust, c'est pas ton village natal.
Non, je suis lorrain d'origine, oui. De la Moselle, proche de l'Alsace. C'est un village dans lequel j'ai eu envie d'habiter. Voilà,
parce et ça fait déjà depuis plus
1900,
de 30 ans.
Oui, voilà, depuis 1989.
Mmh. Voilà. Et donc, ça t'a intéressé aussi d'être un peu l'archiviste de la commune, c'est ça ?
Bien, c'est-à-dire comme j'avais des compétences vidéo, je les ai mises au service de la commune quand je suis arrivé. Ça m'a permis aussi une intégration, d'être intégré par les gens, puisque les gens ont pu voir la manière dont ils vivaient, ce qu'ils faisaient. Ça, c'était la valorisation de leur vie, mmh. et puis aussi une mémoire. Et donc, au départ, effectivement... quand eux travaillent et que vous vous filmez, les gens pensent que vous ne faites rien, etc. Et puis, lorsque 3 ans après, ils ont vu le premier document réalisé lors d'une fête, leur représentation sur moi a complètement basculé. Mmh. Et après, j'ai formé des gens, des parents d'élèves, des instits, ce qui m'a permis de me délester un petit peu de la charge. Et eux ont pris le relais, animé des ateliers, etc. Voilà.
Oui, parce que le fait d'être archiviste, le fait de s'intéresser au patrimoine autour de soi, c'est aussi quelque chose qu'il faut transmettre à la jeunesse. C'est important pour toi.
Absolument, oui, oui. Mmh. Oui, par exemple, les ados du village avaient créé des ateliers où ils s'exprimaient et ça permettait en même temps de leur développer un esprit critique sur les médias.
On va parler tout à l'heure des artistes qui t'entourent, parce que dans la région de Pau, on en connaît quelques-uns, il y en a qui ont été même interviewés dans Sweet Home Chicago. Auparavant, je voulais revenir sur ce fameux Big Bill Bronzy, qui paraît-il a joué, est venu dans la maison d'un certain Jacques Morgantini. Je me souviens qu'il m'avait parlé de 1951, donc 7 ans avant sa disparition, à Big Bill Bronzy. Quelqu'un d'important pour ton cheminement musical, ton parcours dans le blues finalement, et avec un titre emblématique, Jacques, que je te laisse nous présenter.
Oui, c'est Black, Brown and White, parce que... Alors au début, je ne comprenais pas toutes les paroles, et puis il y avait juste ce refrain-là qui m'avait un petit peu titillé l'aspect sensible, et puis en réalisant Mémoire de blues, Jacques Morgantini, on l'a traduit ça et ça a donné encore plus de sens à cette origine. Je trouve que la boucle était bouclée.
Donc voilà. Pour les gens, le message c'est si t'es blanc, il n'y a pas de problème. Voilà. Si t'es métis, bon, ça craint un peu. Par contre, si t'es noir, c'est mort, quoi. Tu peux pas faire tout ce que tu veux.
Bah, c'est pas faux, ouais. C'est toujours pas faux.
C'est toujours pas faux. Et là, on est dans les années 50, on est à la dernière décennie créatrice de Big Bill Bronzy. C'est terrible, hein, le racisme aux États-Unis à l'époque, c'était oui. encore pire que maintenant. Je sais pas, est-ce qu'on peut se dire c'était pire avant
Je ne sais pas, j'ai pas d'études sociologiques là-dessus, mais je pense que si peut-être on le voit un peu moins, ou il y en a peut-être un peu moins, en tout cas c'est toujours latent. Je pense que c'est toujours latent et c'est toujours présent. Et c'est ce qui me préoccupe justement, c'est que les extrêmes droites, on va dire, par rapport au racisme, sont toujours à l'affût.
On va écouter ce qu'en disait Big Bill Bronzy justement. Black, Brown and White avec Jacques Gasser.
This little song that I'm singing about, people you know is true. If you black and gotta work for a living, this is what they will say to you. This is, if you was white, she's all right. If you was brown, stick around. But as you black, brother, get back, get back, get back. I was in a place one night, they was all having fun. They was all buying beer and wine, but they would not sell me none. They said, if you was white, you'd be all right. If you was brown, stick around. But if you black, brother, get back, get back, get back. Me and a man was working side by side. This is what it meant. They was paying him $1 an hour. They was paying me 50 cents. They said, if you was white, you'd be all right. If you was brown, could stick around, but as you black, boy, get back, get back, get back.
I went to an employment office, got a number and I got in line. They called everybody's number, but they never did call mine. They said, if you was white, you'd be all right. If you was brown, you could stick around. But as you black, mm-mm, brother, get back, get back, get back.
Big Bill Bronzy, Black, Brown and White, un morceau avec quasiment que des couplets, hein, pas beaucoup de solos de guitare dans cette structure musicale. Et puis un message qui porte fort, on parle de la loi Jim Crow. Et aussi, ça te rappelle quelque chose que tu as vécu, toi Jacques ?
Oui, parce qu'en travaillant sur l'orientation professionnelle et l'insertion professionnelle de jeunes, d'adolescents et jeunes adultes en grande difficulté, j'ai rencontré cette discrimination très très souvent de la part du monde du travail, parce qu'effectivement, tout ce qui est handicap, tout ce qui est différence, ça fait peur et ça donne pas envie de forcément toujours de prendre la différence au sein de son entreprise.
Est-ce que tu serais partie prenante des gens qui disent qu'il faut supprimer la photo d'identité et les CV ?
Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Je crois que c'est tout un travail à faire. C'est tout un travail à faire à la fois en amont sur les publics pour qu'ils apprennent aussi à, j'allais dire, à être un peu plus conformes, sans être conformistes, mais plus conformes à ce qu'on attend d'eux. Puis à la fois sur le monde économique de l'entreprise, une sensibilisation au fait qu'il peut y avoir un accompagnement de cette différence pour moins gêner l'entreprise. Voilà. Je le dis là, mais j'ai entendu à l'époque quelqu'un du Front National qui disait à Pau, quand je l'avais interviewé, parce que je faisais beaucoup de vidéos aussi au sein de l'éducation spéciale, qui disait il ne faut pas de personnes handicapées dans l'entreprise, parce que, handicapées pas forcément mentales, mais handicap général, parce que ça ralentit l'entreprise, ça perturbe l'entreprise, la rentabilité de l'entreprise. À des propos comme ça, c'est extrêmement grave dans notre société. Donc cette chanson de Big Bill Bonzi, c'est ce qu'elle révèle.
Une société équilibrée, c'est une société qui accepte la différence et qui la valorise.
Je crois que la différence devrait être...
source de richesse, peut-être.
Oui, mais aussi un moyen de trouver une référence. Enfin, c'est un moyen d'aider la référence.
Et puis de créer une identité, pourquoi pas à l'entreprise elle-même, puisque tu parlais du monde du travail.
Oui, mais il y a des entreprises qui acceptent cette différence et ces personnes au sein de l'entreprise. Mais c'est... Je sens que c'est toujours un peu latent quand même. C'est pas acquis, voilà. C'est pas acquis.
Le racisme, effectivement, est un thème qui est abordé dans le blues, dans d'autres milieux musicaux. On peut évoquer le rap, quelque chose que peut-être que nous-mêmes, on maîtrise beaucoup moins. Mais on sait aussi que ça reste dans les paroles de ces musiques-là. Ça continue à être des musiques revendicatrices. On peut parler de la soul music. Il me vient à l'esprit What's Tax, tu vois, par exemple, cette fabuleuse réunion qui était le Woodstock 72, en fait, côté black, en Californie. Des mouvements comme ça, des mouvements revendicatifs des droits des noirs, puisqu'il en est question dans le blues à 100%, c'est quelque chose qui t'évoque quoi ? Qui te rappelle les sombres heures de l'assassinat de Martin Luther King ?
Oui, Martin Luther King, mais il n'y a pas que Martin Luther King, je pense qu'il y avait aussi, je vois un film, c'est un pianiste, sur les routes du Sud, je crois, ce film, où c'est un pianiste noir qui se fait véhiculer par un chauffeur blanc, mais le chauffeur blanc, lors des concerts, a le droit d'aller manger avec les blancs. Et par contre, le pianiste, lui, doit aller dans des hôtels destinés au public. C'est Green Book, je crois, s'appelle
The
ce
Green
film.
Book, ouais, voilà.
Ça me rappelle ça. Ça me rappelle aussi tous les combats. John Baez aussi a beaucoup lutté pour ça. Et puis, je me souviens aussi d'avoir vu des choses, des dames noires qui travaillaient à la NASA.
Il y a eu un film aussi là-dessus.
Oui, voilà. Mm-hmm. Justement, et elles ont, à force de volonté, de
courage, de persévérance.
Courage, de persévérance, exactement, à obtenir et à faire un petit peu la nique, j'allais dire, aux ingés blancs, quoi.
Donc il y a encore des gens qui doivent prouver, au-delà de leur capacité, de leur diplôme, qui doivent prouver qu'ils sont capables de s'intégrer dans une entreprise. Alors ça reste des thèmes latents dans le blues. On va en arriver à un garçon qui nous vient du Texas. Alors lui aussi, ce Lightning Hopkins, là, il t'a fait rêver, il quand tu l'as découvert, c'était quand d'abord
Alors j'étais à l'armée en Allemagne et puis j'étais animateur de la caserne. Oui, c'est possible.
Ah oui.
Et puis on m'a envoyé faire un stage d'animateur interarmée à Angoulême. Et là, je suis allé dans un magasin de disques. J'ai trouvé ce double album de Lightnin' Hopkins, parce qu'on pouvait écouter un peu à l'époque des morceaux dans les magasins.
Oui.
Et voilà, et après j'ai écouté ça couché, j'écoutais ce double vinyle couché tellement ça me rentrait dans...
Alors qu'est-ce qui t'avait inspiré là-dedans particulièrement? C'était le fait qu'il jouait tout seul?
Oui, c'était
son jeu de guitare.
C'était cette manière épurée de jouer, c'est-à-dire lui tout seul, et puis cette voix qu'il avait, son jeu très créatif. Parce qu'effectivement, Lightnin' Hopkins, c'est quelqu'un de très créatif. Mais c'était simple. C'était simple, épuré. Je ne sais pas comment dire. Il me donnait beaucoup d'émotions. Mmh. Voilà.
On va écouter Lightnin' Hopkins. C'est un morceau que tu as choisi qui s'appelle Baby.
Come on, baby. Go home with me. Come on, pretty baby. And go home with me. I may be happy in the morning, as any woman can be. Baby, don't you wanna go? Yes, now, baby. Now, don't you wanna go? You know I'm gonna stop by a place, darling, I never been before. Don't you wanna go? Tell me, pretty baby. Darling, don't you wanna go? You know I'm gonna stop by a place I never been before. Yes, I gotta go there. In the morning, any woman can.
Effectivement, avec un jeu de guitare très épuré et puis une voix très sensuelle, hein, monsieur Lightnin' Hopkins avec ce titre Baby, choisi par Jacques Gasser, qui est l'invité de Sweet Home Chicago aujourd'hui. Merci Jacques de nous faire replonger dans ces années 50, 60, 70 avec des perles, des pépites, hein, c'est ça, du blues.
Ce sont des références.
Des références, exactement. On n'en écoute pas assez souvent dans Sweet Home Chicago parce qu'on est branché sur le répertoire des invités, puis également sur les nouveautés qui arrivent à flot. Et de temps en temps, ça arrive quand même qu'on revienne sur des petites vieilleries bien sympathiques. Il y en a d'autres que tu as préparé au cours de cette émission. Et on va en arriver à un artiste qui s'appelle Magic Slim. Et moi, ça m'interpelle directement par rapport à un compère que tu as bien, bien connu, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps. C'est monsieur Jacques Morgantini. Est-ce que tu peux nous rappeler, Jacques Gasser, quelle est l'importance de Jacques Morgantini dans la reconnaissance du blues et dans la connaissance du blues pour la France?
Ben, Jacques Morgantini, au moment de la guerre 39-45, a commencé à adhérer au jazz, enfin pas adhérer, mais à faire des recherches au Hot Club, à faire des recherches sur le jazz. Et Panassier, qui était le pape du jazz en France, puisque c'est lui qui a amené cette connaissance du jazz en France, avait choisi Jacques comme vice-président du Hot Club de France. Jacques est resté pendant 22 ans. Et Jacques, tout d'un coup, c'est un petit peu, j'allais dire, est devenu le disciple dissident pour se tourner vers le blues. C'est exactement comme Freud et Wilhelm. Ouais, il a eu un dissident, Freud, voilà, le pape de la psychanalyse, et Wilhelm Reich, qui est devenu dissident.
Je pensais que tu allais nous parler de Jacques Lacan, mais
c'est Wilhelm Reich qui est devenu le dissident élève, mais est devenu dissident. Ben, Jacques Morgantini avec
Hugues Panassier.
Avec Hugues Panassier.
Est-ce que ça veut dire que le blues est au jazz ce que Jacques Morgantini était à Hugues Panassier, c'est-à-dire un sous-genre du jazz, comme
pas du tout.
Considéraient.
Ah non, pas du tout. Justement, je crois que la gente un petit peu bourgeoise du jazz, effectivement, mettait le blues un peu au rencard.
Enfin, mais oui.
C'était pas. Et Jacques, justement, l'a valorisé, et surtout, il a beaucoup cherché. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait rien du tout pour connaître tout ça. Et c'est lui qui échangeait des disques avec des étudiants aux États-Unis. Et il échangeait des disques français contre des disques américains. Et ça lui permettait de prendre connaissance de cette musique et puis de la partager. Et c'est un jour Big Bill Bonzi donc, qui a passé une semaine chez lui.
Et oui, là c'était en 1951. Ouais. On va rappeler brièvement, Jacques Morgantini est né en 1924. Ça lui faisait donc 20 ans pile au moment du débarquement. Tu te souviens, il n'y a pas si longtemps, on a visité ensemble le cimetière américain de Colville-sur-Mer, dont l'ami Laurent Choubrac a créé une magnifique chanson qui s'appelle Oma.
Elle me remue les tripes, cette chanson, tout le temps.
On écoutera ça un de ces jours à nouveau dans l'émission. Et puis, Jacques, qui est tout jeune à l'époque et qui profite de ces arrivées massives de disques. Tu parlais un petit peu de la bourgeoisie par rapport au jazz. Est-ce que ça veut dire que les Français qui s'en sont emparés, je pense à Boris Vian par exemple, Henri Salvador, Sacha Distel, est-ce que ça c'était de l'aristocratie de la musique par rapport aux cutéreux que pouvaient être les bluesmen ?
Non, je ne crois pas. Mais c'était à l'époque, c'était plus une caste.
Ouais.
C'est-à-dire que dans une caste, c'est voilà, mais ces gens comme Vian ou Salvador, je crois que c'était différent. Je crois qu'ils aimaient le jazz, mais c'était pas un jazz forcé. C'était pas parce qu'on appartenait à une caste qu'il fallait écouter du jazz. Je crois que ces gens-là ont écouté du jazz parce qu'ils aimaient le jazz, pas parce qu'ils appartenaient à une caste.
D'accord.
Voilà.
Et on en arrive à Magic Slim parce que là, on est plus dans les années 70, à l'époque où Jacques Morgantini, avec sa femme Marcel Morgantini, sont allés à Chicago. C'est
alors,
surtout sa femme, d'ailleurs, hein,
par rapport à l'enregistrement historiquement de ces bluesmen, Jacques n'y est allé qu'une fois en 75, où il avait un petit magnétophone et puis il a enregistré Magic Slim au bord de la Seine. Voilà. Mais après, c'est Marcel qui a produit les disques et qui a produit les enregistrements avec son argent. Et c'est Luc Morgantini, le fils, qui a enregistré. On doit le son de MCM à Luc Morgantini.
On va rappeler les initiales de ce fameux label MCM qui a existé entre 75 et 80, grosso modo.
Non, 78, je crois, 77, 18. Ouais.
Et MCM, ça veut dire ?
Marcel Chailleux Morgantini. Voilà, c'est-à-dire, Marcel s'appelait Marcel Chailleux, et elle a épousé Jacques Morgantini, voilà, et le label, c'est MCM, Marcel Chailleux Morgantini.
Et on doit à ce couple donc la découverte d'un certain Magic Slim. Alors lui, ça fait un petit peu plus de 10 ans maintenant qu'il nous a quittés. Donc on l'a signalé tout à l'heure, Jacques Morgantini n'est plus de ce monde non plus. Marcel l'avait quitté quelques années plus tôt. Hein.
En 2007.
Toi, personnellement, tu n'as pas pu la rencontrer ?
Non, je l'ai eu au téléphone une fois en 2000 et on devait se rencontrer et j'ai trop tardé.
Ouais.
Voilà.
Mais tu t'es bien rattrapé, on va parler tout à l'heure du double DVD Mémoire de Blues. On va écouter d'abord Magic Slim, The Teardrops, un titre que tu as choisi qui s'appelle Sunrise Blues.
Think about my baby. Every morning about sunrise. Think about my baby. you love me, I'll be back one day maybe. I feel kind of lucky, I feel bad, that the sweetest girl that I ever had. Every day about sunrise I think about my baby. I'll be back one day, maybe one day maybe.
Alors, c'était pas un enregistrement MCM là, qu'on vient d'entendre, Magic Slim Don't Get Drops. C'est quelque chose de plus récent et de la fin de sa carrière. On est en 2012 chez Dixie Frog Records dans l'album Bad Boy. Mais Magic Slim Don't Get Drops, depuis vers 1975, où on a entendu pour la toute première fois ses notes aiguës et puis sa voix absolument incroyable, n'a guère changé sa recette. Et d'ailleurs, je me souviens de Jacques Mangantini nous parler de Magic Slim en disant ce type nous a écrabouillé. C'était son terme.
Oui.
Hein, il avait été vraiment impressionné d'abord par la stature de Magic Slim. Pour ceux qui l'ont côtoyé, ils savent qu'il devait mesurer pas loin de 2 mètres.
Oui.
Et c'était un colosse du blues. Hein.
Ben, la première fois que Jacques a voulu enregistrer Magic Slim, il était devant la scène. Et c'était un enregistrement pirate, bien sûr. Mmh. Mais il a quand même demandé à Magic Slim d'enregistrer. Et il raconte que Magic Slim est arrivé près de lui, il a regardé de ses 2 mètres, et Jacques, il avait un peu peur, il s'est dit, il va me casser le magnétophone.
C'était un nain de jardin comme moi.
Voilà. Et Magic Slim, donc Jacques lui explique qu'il veut l'enregistrer, et puis Magic Slim réfléchit comme ça, et lui dit, « Do it
!» Voilà, c'était mûrement réfléchi. Et puis voilà. Après, ça a donné la carrière européenne qu'on lui connaît. Il a enregistré pour Isabel Records au début des années 80.
Et puis, on l'a rencontré, Jacques l'a re-rencontré en 2000, après les Chicago Blues Festival qui passaient en France. Mmh. Mais après, il ne l'a plus rencontré. Et finalement, il est revenu, Magic Slim, au Zénith à Pau en 2010. Et là il a dit sur scène... à tout le monde, le premier disque de ma vie qui a été enregistré par Marcel Morgantini.
Ah oui. Ouais. Alors ça m'amène justement à cette mémoire de blues, d'où le DVD que tu as réalisé il y a déjà quelques années, dont on avait parlé dans une première interview avec le principal intéressé, Jacques Morgantini, que tu as interviewé à maintes reprises. Comment est-ce qu'est née cette idée-là? Est-ce que c'est toi qui en as eu l'idée, Jacques?
Oui. Enfin,
pour
quelle raison? J'ai eu l'idée de rencontrer Jacques et de faire son interview.
Voilà, au départ, ça devait être une simple interview pour le patrimoine, pour la mémoire.
Oui, pour garder sa mémoire.
Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée de compiler voilà, des extraits musicaux, des vidéos, et puis d'en faire vraiment quelque chose de beaucoup plus construit qu'une simple interview ?
Ben, c'est Jacques qui... J'ai dit à Jacques, mais il faudrait que votre mémoire ressorte, enfin, perdure dans le temps. Et il m'a dit, ouais, moi, je ne vais pas écrire un livre parce que ça a déjà été fait. Enfin, voilà. Ben, je lui ai dit, mais on va faire un documentaire, puisque vous êtes l'homme de la musique, vous êtes un homme de musique, donc la musique, ça rentre pas dans un livre. On ne peut pas écouter la musique dans un livre, on l'écoute dans un documentaire musical.
Il existe des livres-disques, hein. On aurait pu imaginer un disque avec ces fameux morceaux qu'on égrène depuis tout à l'heure en compilation, ça existe par ailleurs.
Enfin. Oui, mais là, c'est plus vivant, c'est plus dynamique, c'est une proposition que je lui avais faite, et puis voilà, on a démarré en 2009.
Ça a dû prendre plusieurs mois, j'imagine, ce travail.
Non, plusieurs années, parce que je travaillais encore à l'époque. Mais ce qui est bien, c'est que je travaillais dans la même ville où il habite, enfin, la bourgade, et donc c'était facile. Je sortais du boulot, je l'appelais, je disais « Coucou, Jacques,
est-ce que je peux venir boire un petit verre de Jurançon chez vous ?»
Non, il ne me proposait pas. C'était dès qu'il voulait me proposer à boire, si je demandais un whisky, il râlait, mais c'était de l'humour.
Et donc, petit à petit, voilà, il y a eu plusieurs interviews, et ensuite, ça a donné ce fameux double DVD.
Oui, ça a duré de 2009 à... Et c'est sorti, j'ai reçu la palette de DVD en début février 2016.
Et ce travail, il fallait faire connaître son œuvre, parce que, en fait, dans son entourage, quand je dis son entourage, c'est pas sa famille, mais à Gand, là où il résidait, ou à Pau, dans la ville de Pau, il n'y avait rien.
Non, il était ignoré.
Ouais. Nul n'est prophète en son pays, on dit.
Ouais. Hein. C'est-à-dire, il était dans l'ombre. Moi, je l'ai trouvé avec le volet un peu descendu, parce qu'il. Voilà. Mais il continuait à écrire, à chroniquer pour les revues du Hot Club.
Et il organisait des stages chez lui ?
Oui, après, oui. Ouais. Oui, il en avait fait avant, puis il n'en faisait plus, puis il en a refait. Le fait de le remettre en selle, en vie, ça a tout changé après dans le regard de la ville de Gand. Bon, la ville de Pau, non. Mais ça a tout changé aussi auprès de certaines personnes, comme les Espagnols, qui l'ont fait venir pour qu'ils parlent un petit peu de cette mémoire. Il y a eu le Cahors Blues Festival, enfin...
Oui, il y a eu deux conférences à Cahors, effectivement.
Et puis, j'en avais envoyé un DVD à la Blues Foundation de Memphis.
Oui.
Et là, il y a des universitaires américains qui sont...
Il a été récompensé à Memphis.
Mais sinon, je pense que s'il n'avait pas eu tout ça, je pense qu'il serait mort dans l'oubli.
Donc ce que tu as fait était plus qu'important. Ça a permis peut-être de réhabiliter sa mémoire.
Oui, d'autant qu'il était un peu banni par les gens du jazz, quoi, parce qu'il était,
on retrouve toujours cette petite querelle. Chez Jacques Morgantini, il y a eu des artistes incroyables qui se sont produits dans sa propre maison. Moi, il m'a montré, la seule fois où je suis allé chez lui en 17, il m'a montré le coin de cheminée où il m'a dit, tu vois, là, John Lee Hooker a posé son cul et il m'a joué des blues et je les ai enregistrés.
Oui, il a enregistré Get Back Home, l'album Get Back Home chez lui, chez Jacques.
T-Bone Walker également. Enfin, il
n'a pas enregistré T-Bone Walker parce que...
Il a déjeuné chez lui.
Oui, mais il voulait l'enregistrer, mais son magnétophone est tombé en panne.
La table de Marcel et Jacques était connue parmi les musiciens noirs américains.
Le fameux cassoulet de Marcel, voilà. L'omelette au cèpe de Jacques, le foie gras.
Est-ce qu'un garçon comme Luther Snakeboy Johnson a aussi... fréquenter les lieux.
Ah oui, absolument. D'ailleurs, ça a été Luther Snakeboy Johnson, ça a été quelqu'un qui a beaucoup ému Jacques. Et comme moi, d'ailleurs, je suis extrêmement... Il me transperce. C'est, voilà, on sent chez lui une vie intense. Et il est venu chez Jacques et il avait un cancer à l'époque. Et il est mort 3 mois après. Jacques l'a enregistré chez lui, mais il l'a enregistré aussi à Bordeaux. Ça me donne beaucoup d'émotion de parler de lui. Alors, j'ai retrouvé sa fille il y a quelques années.
On parle de Luther Snakeboy Johnson. Ouais, parce qu'il y a eu plein de Luther Johnson.
Le Snake Boy. Ouais. J'ai retrouvé sa fille, je lui ai envoyé tous les petits films Super 8 numérisés et elle m'a dit, après j'ai pleuré toute la nuit.
Ah là là. On va écouter un extrait de la discographie de Luther Snakeboy Johnson, un garçon dont tu m'as apporté ce titre, Why
Alors,
Don't You Left
Me. Et ce titre est un inédit puisqu'il n'a jamais été diffusé en radio, il a été enregistré par Jacques lors d'un concert à Pau.
En 1975. Luther Snakeboy Johnson, Why Don't You Left Me, on est en 1975, c'est un inédit enregistré par Jacques Morgantini à Pau, et bien, on aura un autre inédit tout à l'heure si vous restez avec nous sur le 666. Pour l'instant on est avec Jacques Gasser, l'interview se poursuit avec ses souvenirs, également une chanteuse, la seule représentante de la gente féminine de cette programmation, qui n'est pas n'importe qui, et là encore une fille qui nous a quittés de façon très très prématurée, et qui a enregistré avec Magic Slim notamment. Je veux parler de Valérie Willington, Jacques.
Oui, je connais mal Valérie Willington, et fort heureusement, il y a une émission sur cette radio, justement, animée par Dan Zirotti, qui m'a permis de...
Je vois de qui tu veux parler.
qui m'a permis d'en connaître davantage, ouais. Parce que...
C'est notre Alan Lomax d'Hérouville-Saint-Clair. Hein.
Oui, pourquoi il y a peu de femmes? Parce que j'en aime d'autres aussi, mais j'avais
des choix. Là, tu parles sous le regard de ta propre épouse, Jacques, fais attention.
J'avais des choix à faire. Bon, c'est vrai que j'aime aussi Coco Taylor. Voilà.
On va écouter Valérie Willington.
Get rich quick. get you an old, old man. And honey, that will be the lick. Yeah, them old men is fine. Yes, they really know just what to do. Well, they give you lots of loving, but they give tick you under your chin and scratch you on your side. They say, wake up, you fine young thing. Give me my morning exercise. Yeah, them old men is fine. Yes, they really know just what to do.
Jacques Gasser, après avoir écouté Valérie Willington, il y a un autre aspect sur lequel je voulais qu'on discute ensemble. Tu es dans la région de Pau, il y a des musiciens palois, il y en a beaucoup. On connaît tous Michel Foison, Gladys Amoros, Nico Wayne Toussaint. On connaît également Miss Bee and the Bullfrogs. On connaît aussi toute la bande de David Nono Limit, hein, David Noël, Super Soul Brothers. Y a-t-il d'autres musiciens oui. que j'aurais oublié de citer?
Oui, il y en a d'autres, mais je ne vais pas les citer là comme ça parce que je ne connais pas toujours forcément leurs noms. Mais c'est vrai qu'il y a des gens.
Qu'est-ce qui fait qu'il y a une scène comme ça aussi foisonnante dans la ville de Pau?
Mais je crois
c'est grâce à la politique culturelle de la municipalité, on
non,
est bien d'accord.
Non, pas du tout. Non, je crois que.
François, si tu nous écoutes.
Le trio Nico Wayne Toussaint, Michel Foison et puis après Gladys Amoros ont fait des émules. Mathieu Pesquet, qui est originaire aussi, ou Roland Pignot, il y a longtemps, venaient faire des jams avec Michel, avec Nico, et ils ont fait leur propre carrière. Il y en a eu d'autres. Je ne sais pas pourquoi. Je crois qu'il y a beaucoup de passion là-bas. Beaucoup de passion. Et puis aussi, ils se respectent les uns les autres. Il n'y a pas de concurrence. Ce qui permet peut-être d'avoir une scène sereine.
Et tu nous as apporté un inédit de Nico Wayne Toussaint. Alors Nico, on le connaît très très bien dans l'émission. Mais lui, tu le connais depuis ses débuts quasiment
Oui, presque. Presque. Oui, presque. Ah. Oui, quand il jouait. Après qu'il ait joué en duo ou en trio avec son père et un violoniste, son père a créé le groupe Vent du Sud. Et j'ai enregistré leur première cassette pour qu'ils puissent faire leur tournée d'été, Ça, c'était en 1995. Et puis, après, Michel Foison, qui jouait avec lui, ils sont séparés. Nico est allé enregistrer à Bordeaux une cassette, parce qu'à l'époque, ce n'était pas un CD. Et j'ai mis ça en CD, cette mémoire. Et donc, le titre qu'on va écouter, c'est...
Bad Boy.
La cassette, justement, ouais. Un morceau de la cassette enregistré dans ce studio dont Nico ne parle jamais.
Et alors pourquoi ? Oui, il a mis ses débuts discographiques un peu sous le boisseau. Pour lui, c'est vraiment le départ avec le premier album Dixie Frog, finalement.
Avec le premier album qu'il a enregistré aux États-Unis, qu'il avait choisi, lui, d'enregistrer aux États-Unis. Voilà.
Donc on va écouter Bad Boy, et ça date de 96, par là ?
Oui, je crois, oui, c'est ça, oui.
Nico N, tout ça dans la radio. Nico N. Toussaint, Bad Boy, sur un album qui s'appelait, je crois, Jacques, Comme à Chicago, hein, ouais, 1996. Ça, ouais. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments pour le personnel qui jouait derrière Nico à cette époque-là ?
Il y avait Luc Guérin à la guitare, Luc qui a joué avec Nico après un petit peu, et le beau-frère de Nico, un Australien, et puis Juan Pérez Aznar à la batterie. Alors, et à la base, je ne sais plus, mais... Juan Pérez Aznar, pour situer, c'est une sommité de la connaissance du blues en Espagne.
En Espagne.
Ouais. C'est lui qui a traduit blues. L'encyclopédie du blues de Gérard Herzhaft en espagnol.
Et tu parles d'espagnol, il y en a un qui arrive là dans la programmation avec une reprise de Little Walter, si je ne me trompe pas trop. C'est Monsieur Tonki de la Peña. Alors lui, il est important pour également la région Béarn, parce qu'il vient très très souvent
Jacques Morgantini a adoré son son.
C'est même lui Louis qui avait illustré musicalement la fameuse conférence de 2016.
Oui, Cavour, hein. Tout à fait. Hein? Moi, j'adore Tonki, j'adore le son de guitare de Tonki. Et aussi, quand il chante en anglais, cette espèce d'accent un peu espagnol, c'est typique. Mais surtout, Tonki a été le premier à inviter Jacques, alors que le double DVD n'était pas terminé. Il l'avait invité, nous sommes allés à Madrid, et Jacques a pu présenter à La Coquette à Madrid, c'est-à-dire un lieu très connu du blues. C'est pas grand, hein, mais c'est extrêmement connu. Et Jacques a présenté ses premiers petits films Super 8 sur MCM, etc.
Alors, on se rend pas bien compte ici, vu la Normandie, parce que l'Espagne, c'est une bonne journée de route. Et est-ce qu'un garçon comme Tonki de la Peña, lui, il a une grosse aura dans le monde du blues en Espagne?
Ah oui. C'est lui qui a joué souvent avec les Américains qui venaient en Espagne, comme par exemple Louisiana Red ou bien Jerry Lee Lewis.
Oui, il a accompagné Jerry Lee Lewis.
Absolument, il a été son sideman.
Tonki de la Peña. Ben, grâce à toi, on va écouter Blues.
Et puis, je voudrais dire quand même, en Espagne, la deuxième fois que Jacques Morgantini a été invité, c'était quand même à Barcelone, par une grande dame du blues et présidente de la société de blues de Barcelone, qui s'appelle Big Mama Mance.
Oui.
Et qui est une femme...
qui est également musicienne.
Oui, elle est blues woman. Hein, voilà. Depuis longtemps, elle a fait beaucoup d'albums, en duo, en groupe, etc. C'est une personnalité que j'aime beaucoup. Voilà.
On écoute Tonki de la Peña, Blues with a Feeling.
Yourself.
Blues with a Feeling, ici interprété par Tanky de la Peña, un garçon, tu l'as signalé Jacques, qui a joué avec les plus grands quand il venait en Espagne.
Oui, et c'était aussi un grand pédagogue parce que en fait, il n'a pas un groupe vraiment, je pense, à sa mesure. Il aide toujours, il forme toujours des jeunes, c'est son mode de transmission. Jouer avec des gens qu'il forme un peu, qu'il aide, qu'il conseille. Et il a produit, il faut quand même dire qu'il a coproduit un album avec Buddy Miles, donc le batteur de...
Le dernier batteur de Jimi Hendrix,
exactement,
oui, carrément.
Oui.
Très bien, voilà, de belles références. Merci Jacques Gasser pour toutes ces infos, pour ta passion du blues, pour... ton amour de la mémoire également, parce que ça, c'est des choses importantes. Il faut des gens comme toi, il faut des gens qui sachent archiver, ouais, qui sachent garder la mémoire pour qu'ensuite, ceux qui sont plus jeunes puissent connaître l'histoire du blues.
Voilà.
Merci à toi.
Merci.
À très bientôt, Jacques. Bon retour. Bon retour à Pau.
Merci.
Merci à toi Jacques pour cette sélection Big Bill Bronzy avec Black, Brown and White, Lightning Hopkins avec Baby, Luther Snake Boy Junior Johnson avec Why Don't You Left Me, Valerie Willington avec Million Dollar Secret, Nico Wayne Toussaint avec Bad Boy, une autoproduction 1996, un truc que vous avez peut-être jamais entendu, Tanky de la Peña avec Blues with the Feeling. Et nous on va terminer cette émission comme on l'a commencé avec Kazoo Kinks, I Gotta Be Me, extrait de Until We Meet Again.
chasing dreams I cannot reach without being me. I gotta be me.
I Gotta Be Me, c'est ainsi que s'achève ce 1200e Sweet Home Chicago. On se retrouvera la semaine prochaine, 1er juillet, avec Kazo Kings pour son actualité partie 2. Et vous savez que la première partie est toujours disponible à l'écoute sur le Mixcloud. Et bien sûr, la sortie de son album Until We Meet Again chez Dixie Frog. Et puis, dans la rubrique My Rockers numéro 31, nous aurons la présence de Julien Boisseau, qui n'est autre que le bassiste de Kazo Kings et qui lui nous parlera d'une musique tout à fait différente avec AC/DC. À la semaine prochaine, salut, bye bye.